Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à l'Arabie Saoudite et à sa diplomatie religieuse. Si la place de Riyad dans la géopolitique mondiale n'est pas affaire nouvelle, des questions se font plus précises aujourd'hui autour de la responsabilité de l'Arabie Saoudite dans la propagation à l'échelle de la planète d'un islam fondamentaliste, le wahhabisme. On peut rappeler que les Saoudiens constituaient le contingent le plus nombreux de combattants étrangers en lutte contre l'armée rouge soviétique en Afghanistan, contingent le plus nombreux également des terroristes du 11 septembre 2001, 15 des 19 membres, des prisonniers de Guantanamo et en 2016 des contingents nationaux étrangers de l'État islamique en Syrie et en Irak avec quelques 2500 personnes. Quel genre d'allié l'Arabie Saoudite est-elle aujourd'hui pour les Occidentaux ou inversement comment Riyad se positionne-t-elle après la normalisation des relations avec l'Iran et son retour sur la scène mondiale ? Entre Washington, l'Europe et Riyad, les contrats d'armement sont toujours vertigineux, les relations financières aussi dense, mais le rôle de Riyad dans la propagation du wahhabisme, version radicale de l'islam et élément de la folie meurtrière djihadiste, suscite une défiance croissante. Les Occidentaux vont-ils longtemps encore pouvoir maintenir leur position alors que l'ambiance entre la maison des Saouds et son protecteur américain enregistre une détérioration certaine, signe d'une profonde évolution stratégique dans la région ? Nos invités, Denis Bochard, ancien ambassadeur, diplomate et conseiller pour le Moyen-Orient à l'Institut français de relations internationales. Bonjour.
Bonjour.
Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, Docteur Saoud et Mister Jihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite, paru chez Robert Laffont dans la collection Le Monde comme il va.
Bonjour.
Et Olivier Dallage, journaliste à RFI, auteur d'une géopolitique de l'Arabie Saoudite aux éditions Complexe. Bonjour.
Bonjour.
Récemment, le New York Times appelait l'administration Obama à cesser d'être complice des atrocités commises au Yémen et le Congrès, qui passait pour l'un des piliers de l'alliance américano-saoudienne, a il y a quelques semaines voté une loi d'exception destinée à permettre aux familles des victimes du 11 septembre 2001 de poursuivre Riyad au motif que 15 des 19 auteurs des attentats étaient des ressortissants saoudiens. Qu'est-ce que vous inspire, Pierre Conessa, ces deux éléments d'introduction ?
Je crois qu'on se place sur deux plans différents. D'abord, le fait que les Occidentaux aient fermé les yeux sur ce qui se passait au Yémen est déjà en soi suffisamment scandaleux. Je crois que la France a dû se réveiller très récemment, puis environ une quinzaine de jours. Or, le massacre durait maintenant depuis plus d'un an. Et deuxième chose, pour le Congrès, effectivement, c'est étonnant et pas étonnant à la fois. C'est-à-dire que le Congrès a aussi traditionnellement plutôt freiné les ambitions d'achat d'armement américain du côté des États-Unis. Rappelez-vous le débat sur les AWACS. Cela dit, les Saoudiens ça connaissaient suffisamment les rouages de l'administration américaine pour faire lever ce Congrès. Je cite un exemple où quelques mouvements de fonds qui se sont déplacés dans des banques américaines ont provoqué effectivement le ralliement de la majorité au Congrès. Mais cela dit, on est effectivement aujourd'hui dans une autre époque. D'abord, il y a un débat très vif aux États-Unis sur la relation américano-saoudienne, ce qui n'existe pas en France d'ailleurs. Mmh. Et en particulier, l'attitude du président Obama consistant à déclassifier les 28 pages du rapport du Congrès postérieur au 11 septembre, alors que le George Bush les avait classifiées, les avait gardées secrètes, et a probablement ouvert la porte à des possibilités, notamment juridiques, que les victimes du 11 septembre ne vont pas manquer d'exploiter. Donc on va probablement vers une zone de forte tempête.
Denis Bochard.
Oui, en fait, cette loi, je dirais, s'inscrit dans une tradition juridique américaine, c'est-à-dire l'extraterritorialité des lois américaines, comme on l'a vu récemment dans le domaine financier, avec l'affaire de la Deutsche Bank, l'affaire de la BNP. Donc, je dirais, c'est une tendance profonde chez les législateurs américains et dans la justice américaine, je dirais, d'estimer que toute personne en dehors des États-Unis peut relever éventuellement de la justice américaine. Ceci étant, là aussi, c'est la prolongation de l'ambiance saoudophobe qui existe aux États-Unis depuis le 11 septembre. Effectivement, comme vous le rappeliez, 15 des 19 terroristes étaient saoudiens. La théorie du complot, qui est la chose la mieux partagée, s'est répandue également aux États-Unis. On a considéré qu'un parent de Ben Laden était à bord d'un avion qui avait précipitamment décollé le lendemain du 11 septembre. Il y a toute une série, je dirais, de rumeurs tout à fait étranges. Alors, ceci étant, cette loi peut avoir des effets pervers, parce qu'effectivement, un citoyen américain peut également décider de poursuivre d'autres États qui pourraient apparaître comme ayant des attitudes criminelles, À travers le monde, et il y en a beaucoup. Et ceci peut effectivement provoquer pour les autorités américaines un grand embarras.
Autre effet pervers, ça peut mettre en danger d'une certaine manière certains diplomates américains de par le monde. Olivier Dallage.
Oui, par un effet de réciprocité, encore que j'y crois pas tellement, parce que pris individuellement, peu d'États ont envie de s'en prendre aux États-Unis d'une manière symétrique. En revanche, il y a eu le vote de cette loi, à la quasi-unanimité, le veto d'Obama a été donc dépassé, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'histoire, parce qu'il va y avoir des procès, des appels, et ça va monter jusqu'à la Cour suprême. Il y a un précédent, c'est l'Iran. Et dans un cas tout à fait similaire, la Cour suprême de l'époque avait déclaré que c'était à l'exécutif de gérer les affaires internationales. On ne sait pas ce que la Cour suprême, qui pour l'instant d'ailleurs n'est pas complète puisqu'il manque encore un membre, décidera quand ça arrivera jusqu'à elle. Ça va sûrement empoisonner en tout cas les relations américano-saoudiennes, et je pense que c'est fait pour ça.
Alors Pierre Canessa, vous développiez l'idée que l'ambiance, et Denis Bochard également, l'ambiance saoudophobe commençait à monter aux États-Unis. Est-ce que c'est la fin finalement du grand silence qu'il y avait vis-à-vis de l'Arabie saoudite? Et qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui de la réalité du jeu de l'Arabie saoudite dans le monde et des rouages de la diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite, Pierre Canessa?
Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, c'est d'abord le fait que la diplomatie religieuse est inscrite dans l'ADN du régime. Mmh. C'est-à-dire, dès la constitution du royaume d'Arabie Saoudite, les oulémas demandent que soit inscrit pratiquement dans la charte constitutionnelle la propagation de l'islam version wahhabite, évidemment, pas une version soufie. Et donc, on est dans une situation où, de toute façon, depuis le début, simplement, il y a toujours une diplomatie religieuse qui avait peu d'importance quand l'Arabie Saoudite avait une double caractéristique, c'est-à-dire c'était un allié contre le communisme, et puis c'était un nain géopolitique. À partir de 73, et surtout à partir de 79, la chose se modifie complètement. 79, c'est l'année de la triple crise. Révolution iranienne, révolution islamique qui fait que les chiites réapparaissent dans l'histoire. Rappelez-vous, le Shah d'Iran, lui, se vantait assez peu de ses pratiques religieuses. Et surtout, les chiites tiennent un discours de l'islam révolutionnaire. Deuxième événement, c'est l'occupation de la Grande Mosquée. L'occupation de la Grande Mosquée par des plus radicaux de la société saoudienne, c'est-à-dire des disciples du grand moufti de l'époque, Ibn Baz. Et troisième épisode, c'est l'invasion soviétique en Afghanistan, ce qui va permettre d'évacuer tous les djihadistes, si vous voulez, vers l'Afghanistan. Bon. Et donc, à partir de 79, on est dans une espèce de jeu extrêmement ambigu avec l'Arabie Saoudite, puisqu'on est allié contre l'Union Soviétique, mais là, on n'a jamais vu que l'Arabie Saoudite avait sa propre stratégie en Afghanistan. Et le produit dérivé de la stratégie saoudienne en Afghanistan, c'est les talibans. C'est-à-dire des gens que personne n'a jamais vu arriver, qui s'appellent des étudiants en religion, qui ont été formés dans les madrassas saoudiennes et des obandis, et qui se retrouvent, en fait, à installer le premier régime islamique fondamentaliste dans un pays arabe. Donc, si vous voulez, on s'était pas rendu compte. Et puis, en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a toujours une diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite, qui a d'autant plus progressé qu'elle est bien organisée, qu'elle dispose d'énormément d'argent. Et j'insiste sur le fait que si les radicalismes frappent aujourd'hui toutes les grandes religions, toutes, le wahhabisme est le seul qui ait fourni autant de moyens et de soutien constant, si vous voulez, à la propagation du salafisme dans le monde.
L'argent, c'est l'argent du pétrole, Denis Bouchard.
Oui, tout à fait. C'est un argent qui, effectivement, est en train de diminuer. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite a contribué à la baisse du prix du pétrole. Dans une certaine mesure, l'Arabie Saoudite s'est tiré une balle dans le pied. Pour contrer le développement du gaz de schiste et du pétrole de schiste aux États-Unis, elle a joué délibérément la baisse des prix du pétrole. Mais je voudrais revenir justement sur ce qui vient d'être dit sur la diplomatie religieuse. Oui, il y a une diplomatie religieuse, mais paradoxalement, il me semble que la politique étrangère de l'Arabie Saoudite n'a pas d'objectif religieux. L'objectif de la politique étrangère saoudienne, c'est sa sécurité, la recherche de protecteurs des États-Unis, mais avec, comme on l'évoquait à l'instant, beaucoup, beaucoup de crispations. C'est surtout maintenant l'obsession et la lutte contre l'Iran. Contrer systématiquement l'Iran, non pas parce que l'Iran est un pays chiite, mais parce que l'Iran a une volonté de puissance, veut dominer le Golfe, et donc touche aux intérêts fondamentaux de l'Arabie Saoudite. Donc moi je nuancerais un petit peu, je dirais, ce terme diplomatie religieuse. Alors certes, il y a la promotion du religieux, du wahhabisme à travers le monde, moins peut-être par le gouvernement lui-même que par un certain nombre d'autres acteurs qui lui sont proches ou qui sont autonomes. Par des fondations, par de riches mécènes saoudiens et qui sont plus croyants que d'autres. Mais il me semble en tout cas que la politique étrangère saoudienne n'est pas de façon fondamentale religieuse dans ses objectifs.
Olivier Dallage, vous partagez?
Alors moi je serais d'accord avec les deux. C'est-à-dire qu'il y a deux diplomaties saoudiennes, une diplomatie d'État qui est très réaliste, très pouvoir classique, une diplomatie religieuse qui est en effet dans l'ADN du pays. Mais on se rappellera par exemple que le fondateur du royaume en 1929, a laissé massacrer ses partisans initiaux qui lui reprochaient d'être trop tiède parce qu'il avait accepté les frontières que lui imposait la Grande-Bretagne. Et puis, il y a un aller-retour entre les deux qui est compliqué parce que le pouvoir laisse faire les religieux et les encourage même à l'étranger et ça revient en boomerang, comme ça a été le cas avec Al-Qaïda dans les années 90 et comme c'est le cas maintenant avec l'État islamique.
Pierre connaît ça.
Moi, j'aurais une analyse un peu différente. Je pense que c'est une des contradictions structurelles de ce régime. Mmh. C'est-à-dire que sa diplomatie normale est le maintien des Saouds au pouvoir. Et pour ce maintien, quand le régime est menacé, c'est l'appel aux Occidentaux, c'est-à-dire aux mécréants. Mmh. Et donc, à chaque fois qu'on en appelle aux mécréants, ça s'est passé en 79, ça s'est passé en 91, ça se passe encore aujourd'hui où on fait la guerre à Daesh à la place de l'Arabie Saoudite.
On en parlera.
Et donc, à chaque fois, les oulémas disent « c'est pas bien », ils trouvent une justification religieuse à cet appel, parce qu'ils sont aussi forts que nos jésuites de ce côté-là. Et au bout du compte, ben le roi est obligé de leur concéder plus de pouvoir. Chose qui m'a frappé en discutant avec des gens qui connaissent mieux l'Arabie Saoudite que moi, c'est qu'il y a une trentaine d'années, les règles religieuses dans la vie quotidienne étaient beaucoup moins prégnantes qu'elles ne sont aujourd'hui. Des femmes occidentales n'étaient pas obligées de se voiler, elles pouvaient sortir les bras nus, et puis au fur et à mesure, on s'est aperçu que après 91, tous les cinémas ont été fermés à Riyad, etc. Donc cette pression religieuse est constante et elle est la balance de cette dépendance de la dynastie. Et donc les deux systèmes sont automatiquement liés, c'est-à-dire que on ne peut pas imaginer que les Saouds aient une autre politique religieuse que celle qu'ils mènent aujourd'hui.
Vous écoutez RFI, Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors, quand vous évoquez la notion de contradiction structurelle, finalement, l'un a servi l'autre, la diplomatie à proprement parler et la diplomatie religieuse. Et aujourd'hui, les deux lignes se croisent et sur fond de cette contradiction que vous évoquez, c'est-à-dire que les intérêts des uns ne sont plus les intérêts des autres, Denis Bochard. Mais...
Oui, moi, je me demande si finalement le pacte fondamental entre la famille Escher, les descendants d'Abdelouad et la famille royale, ce pacte fondamental, c'est chacun a son autonomie de comportement. D'une part, effectivement, les religieux, les imams, je dirais, promeuvent une religion extrêmement intolérante, obscurantiste, disposent de moyens financiers importants accordés directement ou indirectement par le gouvernement, mais d'un autre côté, et je dirais, assurent la paix sociale, et d'autre part, la famille royale a le pouvoir, a une politique étrangère qui coïncide pas forcément, comme on a vu, avec les intérêts des religieux. Alors, il y a des passages de l'un à l'autre, mais il me semble que ce pacte fondamental qui date du XVIIIe siècle était une sorte de répartition des rôles, je dirais, qui subsiste actuellement, bien qu'il y ait effectivement des va-et-vient entre les deux pouvoirs.
Alors, répartition des rôles, on évoque depuis le début de cette émission la question financière, l'argent, le pétrole a repris un petit peu quelques couleurs ces derniers mois, mais tout de même, les prix du baril ont fortement baissé. Et le 19 octobre dernier, on a vu l'Arabie Saoudite, qui est traditionnellement créancier du reste du monde, devenir le débiteur avec le lancement de son premier gros emprunt sur les marchés financiers internationaux. Finalement, l'opération dit long sur les contraintes financières de la monarchie, affaiblie donc par la chute des prix du pétrole. À cela s'ajoute la transformation du système économique et social. Est-ce que le wahhabisme a du souci à se faire? Je ne sais pas qui veut répondre, Olivier Dallage.
Non, il y a des difficultés économiques. Cela dit, le fait que l'Arabie Saoudite soit endettée, ça n'est pas une totale nouveauté. Dans les années 80 et jusque vers la fin des années 90, c'était le cas. Ils avaient émis beaucoup d'emprunts, peut-être pas aussi spectaculaires que celui qu'on voit actuellement. Il faut dire aussi qu'entre-temps, la population a augmenté et les engagements de l'État sur les programmes sociaux sont très élevés. Donc si on veut maintenir, même en réduisant un petit peu, les réserves qui sont énormes diminuent quand même très 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 vite. Je pense quand même qu'ils ont encore beaucoup de moyens pour propager le wahhabisme. Ils vont peut-être diminuer certaines subventions, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont renoncer à ce qu'ils font déjà depuis des décennies.
Oui, je pense que le problème, c'est effectivement, bon, il y a une baisse spectaculaire des cours des prix du pétrole et donc des ressources budgétaires de l'Arabie Saoudite, mais le problème, c'est que ça intervient précisément au moment où les charges de l'Arabie Saoudite sont de plus en plus lourdes, avec la nécessité, je dirais, de nourrir les champs de bataille sur lesquels l'Arabie Saoudite s'oppose avec l'Iran, que ce soit la Syrie, que ce soit Bahreïn, que ce soit surtout le Yémen maintenant, qui est une guerre extrêmement coûteuse. L'Arabie Saoudite finance également, je dirais, la le contre-printemps arabe, la contre-révolution, notamment en Égypte. L'Égypte est un client, je dirais, assidu et avide de finances. L'Égypte était en, je dirais, sinistrée économiquement. D'accord, avec le Fonds monétaire, il est en cours de bouclage actuellement, avec une contribution de l'Arabie saoudite et dans une moindre mesure des Émirats arabes unis, considérable.
Alors, l'Égypte et l'Arabie saoudite sont un peu fâchés ces derniers temps. Pierre connaît ça.
Oui, c'est une petite fâcherie, c'est pas. Vous savez, quand l'Arabie Saoudite a viré sa cutie en soutenant le coup d'état militaire contre l'élection des frères musulmans, après ça, on se dit qu'on est fâché, mais enfin, les Égyptiens sont fortement dépendants de l'argent saoudien pour leur équipement de défense, pour un certain nombre de choses. Moi, je voudrais pour vos auditeurs quand même préciser une chose. On utilise le terme de wahhabisme, et les wahhabites eux-mêmes n'utilisent pas. Eux, ils se considèrent comme salafistes. Dès la constitution du régime, ils ne veulent pas utiliser le terme de wahhabite puisque ce serait rendre hommage à Abdel Wahhab. Or, vous connaissez leur version radicale de l'islam. Seul Allah mérite d'être honoré. Et donc, l'imitation des compagnons du prophète, les salafs, et la règle religieuse. Bon. Donc, pour nous, c'est pas le wahhabisme, c'est le salafisme.
Bon, mais les similitudes sont nombreuses.
Ah, bah oui, c'est le jeu des sept erreurs, si vous voulez. Vous avez des détails. Enfin, le détail, c'est effectivement le fait que vous ayez ou pas le passeport saoudien, ce qui fait quand même une différence importante. Ou le fait qu'éventuellement, quand vous êtes un wahhabite, ben, vous êtes un salafiste quiétiste, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de faire des attentats dans le royaume. Le reste, vous pouvez aller ailleurs, c'est pas très grave. Donc, si vous voulez, il y a quelques nuances de détails, mais fondamentalement, c'est la même notion raciste, antisémite, homophobe, misogyne, sectaire, etc., d'islam. Bon. Version donnée par un théologien musulman, hein, quand même. C'est pas moi qui l'ai inventé. Bon. Donc, ça, c'est la première caractéristique. La deuxième qu'il faut bien comprendre, et c'est peut-être un point qui m'oppose à d'autres analystes, c'est que moi, je considère que dès sa naissance, le régime est anti-chiite. Dès la naissance du régime, en 1932, les oulémas demandent la conversion forcée des chiites du royaume. Et depuis cette époque-là, c'est une espèce de tropisme continu des wahhabites et des salafistes. L'ennemi, c'est le chiite. Moi, j'ai toujours une phrase en tête de, comment il s'appelait, notre jeune type qui avait fait les attentats de Port-Royal et de Khaled Kelkal, qui avait dit à une interview à un sociologue allemand, le chiisme a été inventé par les juifs pour diviser l'islam. Quand vous êtes dans cette conception-là de l'islam, vous comprenez que l'antichiisme est une constante. Et aujourd'hui, ce n'est pas simplement une opposition entre Arabie Saoudite et Iran, c'est une guerre de religion qui divise le Pakistan, l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, le Liban, le Yémen, le Bahreïn et même le Nigeria. Donc si nous, occidentaux, considérons que la question est une question de rivalité entre capitales, je crois qu'on se trompe. Mmh. C'est une guerre de religion dans laquelle nous n'avons aucun moyen de peser.
Alors moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on approfondisse, avant de terminer cette première partie d'émission, cette notion que vous évoquez, Pierre Connaissant, en disant que finalement, cette diplomatie religieuse, cette lutte entre donc un régime anti-chiite depuis le début, comme vous venez de le dire, finalement, ça a été des trous noirs des relations internationales pendant très longtemps. Est-ce qu'on a volontairement fermé les yeux ou est-ce que c'est simplement... On avait le regard tourné ailleurs.
Non, je crois qu'on a une conception weberienne du monde. C'est-à-dire, on se dit, effectivement, c'est les États qui dirigent la planète. Et c'est vrai que pendant toute la guerre froide, on avait une carte du monde qui était bien délimitée par des territoires. Deuxième caractéristique de notre diplomatie à nous, c'est que nous sommes un pays laïque. Et donc, il n'y a pas question de demander à un ambassadeur d'aller regarder ce qui se passait dans des mosquées salafistes au Pakistan ou je ne sais où. Donc, le fait qu'on n'ait pas vu cette composante-là, de même qu'on a été surpris quand la révolution iranienne a brandi tout à coup l'identité chiite comme identité révolutionnaire, fait que, si vous voulez, c'est aussi une question d'humilité, si vous voulez, face à une crise, c'est-à-dire pour la comprendre avant de commencer à agir. Non, nous avons tendance à agir, si vous voulez, avant d'avoir compris la crise. Et donc, dans cette caractéristique-là, c'est d'ailleurs ce que dit Védrine dans sa préface, c'est un sujet qui mérite d'être creusé, parce qu'il y a d'autres acteurs aujourd'hui dans la diplomatie religieuse, et c'est pas parce que nous sommes laïcs que ces acteurs ne pèsent pas.
Alors les acteurs, rapidement, Denis Bouchard, c'est aussi...
Oui, peut-être je voudrais d'abord répondre. Mon expérience prouve que les ambassadeurs, y compris les ambassadeurs de France, s'intéressent à ce qui se dit dans les mosquées, dans leur pays de résidence. Ça,
c'est plus récent quand même.
Et effectivement, je dirais, l'écoute par personne interposée, clandestine ou officielle, permet effectivement de connaître la température religieuse du pays dans lequel on se trouve. Mais il me semble que tout le monde n'est pas silencieux, notamment les États-Unis. Chaque année, vous avez le rapport sur les droits de l'homme publié par le département d'État, qui accroche un certain nombre de pays dans le monde, y compris l'Arabie saoudite, et en général, ce rapport est extrêmement critique sur l'Arabie saoudite. Donc, il n'y a pas silence, de même que, je crois que c'est en 2013, un rapport de la trésorerie américaine, présenté par le sous-secrétaire d'État David Cohen, avait souligné de façon extrêmement précise toutes les sources de financement qui pouvaient venir des pays du Golfe, y compris de l'Arabie saoudite. Donc il n'y a pas un silence complet, c'est simplement il y a un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Aussi bien s'agissant de l'ensemble des pays occidentaux, notamment des États-Unis, il y a eu la volonté de maintenir une bonne relation avec l'Arabie Saoudite pour des raisons de réal politique.
Et peut-être que c'est le cas aussi pour la France. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission Géopolitique. Nous retrouvons nos invités Denis Bochard, Pierre Conessa et Olivier Dallage dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite. Nous retrouvons nos invités Denis Bochard, ancien ambassadeur, diplomate et conseiller pour le Moyen-Orient à l'Institut français des relations internationales. Pierre Conessa, ancien fonctionnaire au ministère de la Défense et auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, Dr Saoud et Mister Jihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite, paru chez Robert Laffont dans la collection Le Monde comme il va. Et Olivier Dallage, journaliste à RFI et auteur d'une géopolitique de l'Arabie Saoudite aux éditions Complexe. Nous évoquions notamment dans la première partie de l'émission l'ambiance saoudophobe qui commence à monter aux États-Unis, ce qui marque d'une certaine manière une rupture avec le silence qui a prévalu très longtemps. Côté français, on est quand même surpris de voir que ce silence perdure et qu'il n'y a pas de véritable débat sur la politique française en Arabie Saoudite. Et Olivier Dallage.
Il y a plusieurs candidats à la primaire de la droite qui ont exprimé, je pense à Le Maire, je pense à Fillon, leur désir de revoir les relations avec les monarchies du Golfe. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire que la France ne s'est pas préoccupée jusqu'à ces derniers jours de l'aspect financement religieux de l'Arabie Saoudite. Moi, je peux témoigner que dès les années 90, avant je ne sais pas, mais en tout cas dans les années 90, un certain nombre de mes contacts diplomates racontaient que en recevant des Saoudiens ou lorsqu'il y avait une visite en Arabie Saoudite, les responsables français évoquaient de manière diplomatique mais franche les doutes qu'ils avaient sur les amitiés étranges qui aboutissaient à des financements qui jouaient contre les intérêts français. Les Saoudiens répondaient systématiquement que oui, mais ça c'était des dons privés, ils n'avaient pas le contrôle. Les Français faisaient mine de le croire, tout en faisant comprendre que ce serait bien quand même qu'on y remédie. Et je me rappelle même un épisode, j'ai plus la date en tête, où Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, se rendant en Arabie Saoudite, avait été jusqu'à citer Ibn Taymiyyah, qui est un théologien, qui est l'un des pères proto-wahhabis, en quelque sorte, pour justifier le fait que les musulmans respectent les lois du pays dans lesquels ils sont pas majoritaires. Donc, le fait qu'en tant que pays laïque, la France se mêle pas de religion, c'est pas tout à fait exact.
Pierre connaît ça?
Oui, je crois que notre discussion, c'est sur l'Arabie Saoudite, c'est pas les monarchies du Golfe. Or, à chaque fois qu'on veut pas parler de l'Arabie Saoudite, on dit nos relations avec les pays de la monarchie du Golfe. On a d'excellentes relations avec Abu Dhabi, Abu Dhabi se mêle pas de ce qui se passe en la France. Bon. Et avec le Qatar, on a plus d'interférences, effectivement, et on le sait avec l'ancien président. Mais il reste que, si vous voulez, le Qatar, c'est un joueur de deuxième division par rapport à l'Arabie Saoudite. Et donc, il faut quand même pas contrebalancer l'influence extraordinaire qu'a eu l'Arabie Saoudite depuis 70 ans ou 80 ans qu'elle mène cette diplomatie religieuse. Avec ces nouveaux intervenants que peuvent être la Turquie ou que peuvent être le Qatar. L'Arabie Saoudite a constitué un bras armé qui s'appelle la Ligue Islamique Mondiale, qui est née au départ pour faire pièce au nasserisme, hein, puisque c'était pour répondre à la Ligue Arabe. Elle a créé l'Université Islamique de Médine. Et depuis ce moment-là, si vous voulez, elle a une politique de formation de cadres, qu'elle va ensuite disperser un peu partout. Et nous, on les retrouve aujourd'hui en Afrique francophone. On les retrouve dans toute la zone sahélienne. Au départ, c'était pour contrer l'influence du nasserisme. Mais aujourd'hui, on les a en face de nous. De gens qui contestent le code de la famille, qui contestent le rôle de la femme, qui contestent le droit du divorce, qui demandent leur validation des diplômes délivrés par les madrassas en équivalence avec l'enseignement public. Et donc, on a aujourd'hui une influence du wahhabisme qu'on n'a pas, encore une fois, analysée comme si dangereuse que ça en d'autres temps et qui aujourd'hui se manifeste au Mali, au RCA, etc. Alors, cela dit, je rappelle quand même un petit souvenir qui fait qu'il faut observer un certain mutisme à l'égard de l'Arabie Saoudite. Quand la gauche en était à sa troisième dévaluation en 81, elle est quand même allée s'adresser à Riyad d'abord pour que les Saoudiens ne retirent pas leur argent des banques françaises et ensuite pour qu'on accorde un plan secret, une aide secrète de 2 milliards de dollars à l'époque.
4 milliards.
Ah ben, tu vois, j'en ai oublié deux.
Donc l'Arabie Saoudite au secours de la France à certaines époques. Est-ce que finalement il y a un endroit dans le monde où la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite ne s'exerce pas? Et qu'est-ce que l'on peut dire des crises à venir, le cas échéant? Peut-être qu'il faudra reparler de la question de l'Iran et du retour de Téhéran sur la scène mondiale. Est-ce que ça va modifier certaines choses dans la diplomatie de l'Arabie Saoudite? Et qu'est-ce qui est à craindre finalement, Denis Bochard?
Il me semble que la diplomatie religieuse, pour reprendre le terme de Pierre Conessa, s'exerce effectivement tous azimuts, avec un succès, je dirais, inégal selon les pays. avec un grand succès, effectivement, c'est une crainte qu'on peut avoir que cet islam radical se développe en Afrique, en particulier dans le Sahel, car je dirais ceci a pour nous des conséquences directes, hein, ça accroît encore la menace qui peut peser sur la France. Aux États-Unis et même en France, même, comme le disait Olivier Dallage tout à l'heure, et à tout de même, quelle que soit la cordialité des relations que nous avons avec l'Arabie Saoudite, on reste extrêmement prudent, méfiant sur leur action en France. Et finalement, je pense que les préoccupations qui existent, notamment actuellement, viennent beaucoup plus de la mouvance des frères musulmans que de l'Arabie Saoudite.
Pierre Connaisseur.
Votre question sur la géopolitique de la diplomatie religieuse est une question qui m'a beaucoup surpris moi-même, puisque j'ai eu la chance de profiter que Wikileaks dévoile 70 000 documents diplomatiques saoudiens. 70 000 documents, c'est-à-dire des échanges entre le centre et la périphérie, qui donnent finalement une vision assez étonnante, puisqu'on s'aperçoit que c'est véritablement une stratégie mondiale. Et cette stratégie mondiale est en fait l'inverse de la carte du chiisme dans le monde. C'est-à-dire que le seul zone qui finalement semble exclue, c'est l'Amérique latine. Et encore l'Amérique latine, ça dépend des endroits, puisque vous avez en Amérique latine ce qu'on appelle des Syriens, qui sont en fait pour l'essentiel des chiites libanais qui ont émigré en d'autres temps. Bon. Et donc c'est une espèce de préoccupation de l'Arabie saoudite de savoir comment contrer les chiites partout. J'en cite des exemples, parfois même pour des petites sectes comme les Ahmadiyya en Indonésie, qui sont 400 000 pour 180 millions d'habitants, et qui quand même préoccupent l'Arabie saoudite là-bas. Donc c'est la carte géopolitique de l'Arabie saoudite, à mon sens, de sa diplomatie religieuse, c'est l'inverse de la carte du chiisme. Par exemple, le deuxième pays chiite du monde, c'est l'Inde. Et donc, ils font un gros effort en Inde contre les chiites. Donc, ça, c'est, à mon avis, la caractéristique. La deuxième, c'est quand même que, dans le genre hypocrite, si vous voulez, l'Arabie saoudite fait quand même très très fort. Ils ont créé à Vienne ce qu'on appelle le CAICID, c'est-à-dire un grand centre pour le dialogue interreligieux. Venant du pays le plus intolérant de la planète, c'est quand même ce qu'on fait de mieux quand on a un peu d'argent. Et donc, tout le monde y a adhéré, tout le monde y va, l'UNESCO, etc. Mais c'est quand même assez fascinant de penser que ce pays qui n'accepte aucune autre religion sur son territoire soit celui qui prône le dialogue interculturel, interreligieux.
Oui, mais personne n'est dupe, je pense.
Bah, si, mais enfin, même sans être dupe, je veux dire, il y a des moments où il faudrait qu'on crée à ce moment-là un institut de la laïcité en Arabie Saoudite, hein, pour faire prendre.
Olivier Dallage.
Il y a deux lectures de cette chose. Moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et en même temps, il faut se rappeler que quand le roi Abdallah a instaurer le dialogue interreligieux, il a accepté des intervenants, puisque c'est lui qui était à l'origine de ce dialogue qui s'est tenu à deux ou trois reprises, avec des chrétiens, avec des juifs, avec des religions qui ne sont pas monothéistes, et ça ne nous paraît pas extraordinaire. Mais en Arabie Saoudite, c'est ahurissant d'imaginer que le roi d'Arabie Saoudite puisse engager un dialogue avec les bouddhistes et avec les hindouistes. Donc voilà, c'est un petit peu nuancé. Cela dit, cette affaire n'a pas eu un grand avenir.
Juste une remarque quand même. Effectivement, Olivier a raison de le signaler, mais quand on se trouve confronté à la crise des réfugiés, dont je rappelle qu'en termes de convention internationale, il faut accepter les réfugiés, quelle que soit leur religion, quel que soit leur sexe, etc., l'Arabie Saoudite n'accueille pas de réfugiés, parce qu'elle ne veut pas de chiites, elle ne veut pas de non-musulmans, etc. Donc on n'est pas dans un système où, effectivement, le discours tenu par le roi à Vienne a été probablement très largement filtré par la presse saoudienne. Mais fondamentalement, il n'y a pas de changement de pratique.
Denis Bouchard.
Oui, ceci étant, il me semble tout de même que cette diplomatie religieuse rencontre de plus en plus d'obstacles, y compris dans le monde sunnite.
Je voulais y venir.
Et ce qui s'est passé à Grozny, sans doute, je dirais, l'initiative naturellement de la Russie, intéressante.
Grozny, on resitue, Denis Bouchard, c'est cette conférence qui s'est tenue l'été dernier et qui a vu un communiqué final laisser entendre que le wahhabisme, qui a rang de religion d'État en Arabie Saoudite, ne fait pas partie du sunnisme, ce qui met en exergue finalement les tensions sous-jacentes entre les trois pays en principe alliés, Égypte, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Non,
ce qui est très intéressant, c'est que cette conférence a été ouverte par Ahmed Al-Tayeb, le recteur de l'université Al-Azhar, c'est-à-dire une des grandes universités de l'islam. Et on sent que les recteurs de ces grandes universités, je dirais traditionnelles, qu'il s'agisse d'Al-Azhar, qu'il s'agisse d'Al-Zitouna, etc., Karawin, commencent à s'inquiéter, je dirais, de la propagation de ce salafisme wahhabite. Et donc, prennent des initiatives, manifestement sur ordre. Et effectivement, il faut se rappeler que le président Sissi, fin 2014, a fait devant justement les religieux rassemblés à Al-Azhar un discours qui les a sidérés, développant le thème « L'islam ne doit pas se confondre avec le terrorisme ». Il a, je dirais, secoué en quelque sorte les branches de l'islam en affichant clairement la couleur et en se distanciant manifestement des Séouliens. D'où, effectivement, un élément de crispation qui n'est pas négligeable, me semble-t-il, actuellement.
Donc, finalement, les plus grosses tensions, je me tourne vers vous, Pierre Connaissat, c'est davantage entre les courants sunnites que dans la confrontation entre le sunnisme et le chiisme.
Je crois que la prise de position, en tout cas, d'un certain nombre de gouvernements ou d'autorités sunnites contre la propagation du wahhabisme est avérée, alors que nous sommes d'un silence de mort, si vous voulez, sur le sujet. Ça, c'est un premier point. En Algérie, qui a subi les 10 ans, quand même, de guerre civile, avec ce qu'à l'époque on n'appelait pas les salafistes, mais qui fondamentalement y ressemblent encore une fois comme deux gouttes d'eau, c'est-à-dire le GIA puis ensuite le GSPC, avec tous les excès du GIA qui rappellent exactement ce qu'on connaît aujourd'hui à Daesh. Donc l'Algérie avait très fortement critiqué l'influence saoudienne à cette époque-là, et on a aujourd'hui, notamment l'exemple que citait Denis Bochard, même en Égypte, cette critique qui est beaucoup plus radicale et plus forte dans les pays arabes sunnites qu'elle ne l'est aujourd'hui dans les pays occidentaux. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, le fait que Al-Azhar se positionne aujourd'hui, il y a une rivalité dans la formation des élites. Une des techniques qu'utilise l'université de Médine pour recruter les gens, c'est d'aller les débaucher devant l'entrée d'Al-Azhar en disant « mais venez donc chez nous, parce que nous on vous offre une bourse, on vous offre un logement et on vous offre la gratuité du transport ». Pour quelqu'un qui arrive du tiers-monde et qui doit vivre en plus en Égypte en faisant des petits boulots, on comprend que ça puisse attirer son monde. Et alors moi j'ai des hésitations aujourd'hui sur les chiffres formés par l'université de Médine, parce que moi j'avais vu le chiffre de 30 000 personnes en 30 ans, et en fait je viens de voir le chiffre de 130 000 personnes, alors je sais pas entre les deux lequel il faut retenir, mais en tout état de cause on a une université Lumumba, comme celle qui existait à Moscou, qui est l'université de Médine, qui forme des cadres diffusés aujourd'hui à travers la planète, et en particulier dans un certain nombre d'États francophones d'Afrique. Et je cite en annexe une liste de personnalités formées à Médine, qui sont aujourd'hui dans des fonctions de responsabilité un peu partout.
Olivier Delage.
Oui, le fait que la réunion soit tenue à Grozny est intéressant parce que la Tchétchénie était l'une des terres de mission des Wahhabites envoyés par l'Arabie Saoudite et avec une certaine influence. D'une manière générale, d'ailleurs, ils ont été assez actifs dans certaines zones de l'Europe. Aujourd'hui, certaines zones de Bosnie sont totalement wahhabisées et donc ça chatouille quand même les Russes et Vladimir Poutine qui a voulu, en s'alliant avec des sunnites, mettre un coup d'arrêt. Puis, il y a la dimension proprement politique russe, c'est-à-dire qu'au moment où ils font leur grand retour au Proche-Orient, il est intéressant d'enrôler un certain nombre d'acteurs sunnites contre l'influence saoudienne.
Ça, c'est intéressant, Denis Bochard, effectivement, de voir cette convergence d'intérêts, finalement, entre certains courants sunnites et la question de la Russie. On en vient à Daesh. Où est-ce qu'on en est? Quels éclairages peut-on porter aujourd'hui sur le lien entre l'Arabie Saoudite et Daesh, Denis Bochard?
Je pense que Daesh a beaucoup de pères. On peut dire que le fait que l'Arabie Saoudite promeut un islam violemment anti-occidental, haineux, etc., et organise une sorte de terreau favorable au développement de toutes les violences et au développement du djihadisme. Mais enfin, Daesh a d'autres pères, et notamment, à commencer par nos amis américains. Il est sûr que l'executive order de mai 2003 du proconsul américain Paul Bremer, qui a provoqué la dissolution à la fois du parti Baas et de l'armée de Saddam Hussein, conduit un certain nombre de cadres sunnites et bassistes de l'armée à rejoindre ce qu'on appelait à l'époque les insurgents, qui étaient menés essentiellement par Al-Qaïda dans Mésopotamie avec à sa tête le défunt Zarqawi, dont Daesh est l'héritier direct. Le président Bachar al-Assad, lorsqu'il a libéré un certain nombre de djihadistes de ses prisons, c'était pas un acte innocent, c'était manifestement une façon juridique de montrer que les rebelles ne pouvaient être que des terroristes, et donc a nourri également, je dirais, Daesh et le front al-Nusra en Syrie.
Alors la question qui se pose, Pierre Connaissat, finalement, est-ce que Daesh est une menace aujourd'hui pour l'Arabie Saoudite?
D'abord, je voudrais relativiser l'analyse de Denis Bochard, parce que c'est vrai qu'il y a une responsabilité directe et une responsabilité indirecte. Le géniteur de Daesh et de l'idéologie salafiste, ça reste l'Arabie Saoudite. Le fait qu'on ait nommé là-bas un Texan qui ignorait absolument tout de la région et qui s'est comporté comme un cow-boy, malheureusement, il avait déjà un père fondateur lui-même qui était George Bush. Donc, on est sur cette trouvée avec la catastrophe qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que Daesh et le mix, c'est un mélange entre le salafisme et le savoir-faire de l'État irakien, bon, qui lui donne une valeur militaire, une valeur de renseignement, une valeur d'action, etc. Bon. Cela dit, ce que je trouve aujourd'hui le plus grave dans la situation, c'est que nous sommes seuls à nous battre contre Daesh, c'est-à-dire que les Saoudiens et les autres pays arabes se sont retirés de la coalition quand ils sont tous partis au Yémen. Et donc, on est aujourd'hui avec une force aérienne strictement occidentale, 11 pays de l'OTAN plus l'Australie, et en fait, on est à faire la guerre à la place de l'Arabie Saoudite. Donc le résultat, c'est quand même, il faut attirer l'attention de nos concitoyens là-dessus, le résultat c'est 450 morts et plus de 800 blessés dans les rues de France, pas un seul militaire tué, parce que nous sommes dans le zéro mort. Par contre, la guerre s'est déplacée ici. Mmh. Et donc, on se refuse à faire le lien entre notre intervention militaire là-bas et les conséquences ici, alors que quand il y a eu les attentats de Londres et les attentats de Madrid, tout le monde a dit que c'est évidemment à cause de l'intervention en Irak. Et cette espèce de myopie des hommes politiques est très très grave, parce que chacun promet de la plus de sécurité qu'il est incapable d'assurer sur le territoire, parce qu'on se refuse à changer le paradigme.
Alors, cette question peut-être pour terminer, sauf si Denis Beauchamp, vous souhaitiez rajouter quelque chose.
Je pense que tout de même, depuis un an, Aboubakar a déclaré la guerre de façon explicite à l'Arabie Saoudite, tout au moins à la famille des Saoud, en contestant légitimité religieuse. Je pense que Daesh représente effectivement une menace sur l'Arabie Saoudite, même si l'Arabie Saoudite peut avoir sa part de responsabilité dans son apparition.
Olivier Dallage.
Il y aura une guerre sans merci entre l'État islamique et l'Arabie Saoudite, pas du fait que l'Arabie Saoudite a choisi ce conflit, mais parce qu'elle sera attaquée, elle l'a déjà été, par Daesh, et c'est exactement ce qui s'était passé une vingtaine d'années plus tôt avec Al-Qaïda.
La question, c'est est-ce qu'on sortira son secours ?
Alors, pour terminer cette dernière question, comment imaginer la suite de l'histoire et finalement le devenir de la stratégie religieuse de l'Arabie Saoudite ? Pierre Conessa.
Moi, je pense qu'elle ne peut pas changer. C'est parce qu'encore une fois, cette solidarité entre les deux familles Saoud et la famille Al-Sher descendante d'El Wahab est une espèce de consolidation réciproque qui fait qu'à chaque fois que l'un a besoin de l'autre, ils se viennent en aide. Leurs intérêts sont liés. Donc, il ne peut pas y avoir de changement sur la diplomatie religieuse. Par contre, effectivement, que le fait que l'Arabie Saoudite soit menacée par les monstres qu'elle a créés, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait normal. On l'a connu dans d'autres idéologies totalitaires. N'oubliez pas quand même que c'est pas un phénomène nouveau. Et donc, aujourd'hui, que Daesh soit confronté à la fois au fait que les frères musulmans aient gagné les élections, ce qu'elle n'accepte pas depuis 91, qu'elle soit confrontée au salafisme radical qu'elle a elle-même créé. On va effectivement vers une crise. La seule chose qui me préoccupe vraiment, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une crise de guerre de religion interne à l'islam, à plusieurs variables, et que cette guerre peut rester régionale, tandis que si nous nous en mêlons, elle deviendra mondiale.
Denis Beauchard.
Oui, la fitna existe au sein du monde musulman, mais il me semble que par-delà cette guerre de religion, des religions, il y a une instrumentalisation du religieux qui est le fait aussi bien d'ailleurs de l'Iran que de l'Arabie Saoudite. Et ceci cache, à mon sens, un affrontement de deux grandes puissances rivales, l'une perse, l'autre arabe, qui prolonge un affrontement qui dure depuis des siècles.
On divise à l'âge ?
Jamais l'Arabie Saoudite n'a eu bonne réputation ailleurs. Mmh. Et c'est en train d'atteindre un niveau jamais connu auparavant. Et les centaines de millions qui sont dépensés avec des sociétés de relations publiques ne vont rien y changer.
Notamment en France.
En France, aux États-Unis, en Angleterre, un peu partout. Mais cela étant, à la fois parce qu'en effet, l'armature du régime saoudien, c'est cette politique religieuse, et qu'en même temps, l'Arabie Saoudite a besoin de l'Occident pour survivre en tant que régime, cette tension à laquelle on a fait allusion tout au long de l'émission va se poursuivre, à mon avis, pour encore très longtemps.
Alors, il y a un pays dont on n'a tout de même pas parlé dans ce contexte général, c'est la Turquie, Pierre Conessa.
La Turquie, c'est un acteur régional, je crois qu'il faut respecter. C'est une composante du Moyen-Orient qu'on a souvent pris comme allié du front est de l'OTAN. Le fait que la Turquie ait une politique à elle, ça veut dire qu'effectivement, il faut revoir une grande partie de nos critères d'analyse, et donc que la Turquie va en particulier lutter contre l'influence salafiste, mais elle a aussi sa composante anti-chiite, il faut l'étudier en tant que tel. Moi, je le connais pas assez, je pensais pas que c'était mon objet que de l'étudier, de même que la diplomatie religieuse du Qatar. Et donc, je crois que j'en appelle à une espèce de réunion avec des gens qui connaissent mieux le sujet que moi, et pour qu'on fasse cette espèce de tour des diplomaties religieuses aujourd'hui, parce que ça devient une composante des relations extérieures particulièrement préoccupante. Et puis encore une fois, on est dans des pays où la distinction entre le politique et le religieux n'existe pas.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Denis Beauchard, ancien ambassadeur, diplomate et conseiller pour le Moyen-Orient à l'Institut français des relations internationales. Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense et auteur donc de nombreux ouvrages, dont le dernier, Docteur Saoud et Mister Jihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite, paru chez Robert Laffont dans la collection Le Monde comme il va. Et Olivier Dallage, journaliste à RFI et auteur d'une Géopolitique de l'Arabie Saoudite aux éditions Complexe. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique Le Débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacrée au Nicaragua. pays d'Amérique centrale où des élections présidentielles et parlementaires se tiennent cette semaine. À demain.